Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 90 ans, le 7 juillet 1930, disparaissait Sir Arthur Conan Doyle, père du célèbre détective Sherlock Holmes. C'est son histoire, ainsi que celle de son héros charismatique, que je vais vous raconter aujourd'hui. En 1893 paraissent « Les mémoires de Sherlock Holmes », un recueil de 11 nouvelles. D'innombrables lecteurs se précipitent vers ce nouvel opus comptant les enquêtes de leur détective préféré. Horreur ! Dès les premières lignes de la 11e et dernière nouvelle, intitulée « Le dernier problème », le docteur Watson, l'alter ego et l'historiographe de Sherlock Holmes leur apprend que leur héros est mort depuis déjà 2 ans. Apparemment, la nouvelle avait été publiée dans le journal de Genève du 6 mai 1891, puis dans la presse britannique du 7 mai, grâce à une dépêche de l'agence Reuters. Quoi ? Sherlock Holmes est mort depuis 2 ans et on n'en savait rien ? Le docteur Watson va nous livrer tous les détails de cette horrible histoire. Tout d'abord, il nous rappelle que depuis son mariage et l'installation de son cabinet médical, ses liens avec Sherlock Holmes étaient quelque peu distendus. Au cours de l'année 1890, ils n'avaient élucidé ensemble que 3 affaires. À l'hiver de 1891, il avait appris par la presse que Sherlock Holmes avait été chargé par le gouvernement français d'une mission capitale. Tout d'un coup, le 24 avril 1891, Sherlock Holmes fait irruption chez Watson. Il est pâle, amaigri, l'une de ses mains est couverte de sang. Il semble terrorisé. Cela ne lui ressemble pas du tout. Lui, l'incarnation du flegme britannique. Il avoue « J'ai peur ». Puis il raconte qu'il est sur le point de faire arrêter son pire ennemi, le professeur Moriarty, le Napoléon du crime. Le réseau de ses principaux complices va être jugé la semaine suivante. S'il témoigne, Moriarty est perdu. Ce dernier n'a donc plus qu'une idée, se débarrasser du détective. Victime de plusieurs accidents, Sherlock Holmes a subi une attaque qui lui a écrasé la main. Elle montre la détermination de Moriarty. Sherlock Holmes doit absolument se mettre à l'abri pendant la semaine qui précède le procès. Il propose à Watson de partir avec lui dès le lendemain pour le continent. S'ils échappent à Moriarty, ce sera un voyage d'agrément. Holmes met au point une stratégie très compliquée pour que Watson, qui est sans doute aussi surveillé, le rejoigne sans ennui à la gare de Victoria. Il lui indique le train et le numéro de la voiture où il a réservé un compartiment. Après avoir donné ses instructions, Holmes disparaît dans la nuit en escaladant le mur du jardin. Le matin suivant, Watson se retrouve quelques minutes avant le départ du train dans le compartiment indiqué. Mais pas de Sherlock Holmes. C'est alors qu'un vieil abbé italien, bossu, s'exprimant dans un anglais exécrable, s'introduit dans le compartiment. Watson tente de s'en débarrasser. L'abbé se métamorphose alors en quelques secondes. C'était un déguisement de Sherlock Holmes. Moriarty est forcément sur leurs traces. Ils changeront de train à Canterbury avant d'embarquer à New Haven, direction Bruxelles pour brouiller les pistes. Puis, en Suisse, ils vont remonter la vallée du Rhône, visiter Interlaken et s'installer le 3 mai dans le petit village de Meringen. Le directeur de l'hôtel des Anglais, où ils sont descendus, leur conseille d'admirer les chutes de Reichenbach, non loin de là. C'est spectaculaire, le torrent qui descend des Alpes bernoises tombe par 5 cascades, dont la plus impressionnante à 100 mètres de haut. Watson les décrit très bien.
En vérité, l'endroit est terrifiant. Le torrent, gonflé par la fonte des neiges, se précipite dans un gouffre où l'écume rejaillit en tourbillonnant comme la fumée d'une maison en feu. Le vertige vous prend à considérer longtemps cette masse d'eau verte qui plane dans un sifflement ininterrompu.
Watson et Holmes s'apprêtent à s'engager sur le sentier qui permet d'avoir la vue la plus impressionnante sur la chute. À ce moment, un groom vient chercher le docteur Watson et lui demande de revenir d'urgence à l'hôtel pour secourir une Anglaise au plus mal. Le médecin se précipite. À l'hôtel, il apprend qu'il n'y a aucune Anglaise malade, encore un piège de Moriarty. En courant, Watson retourne vers la cascade. Il découvre avec horreur, à l'extrémité du sentier, les traces de pas de deux hommes menant à la chute. Au bord du précipice, le sol est boueux, piétiné, ravagé. Comme il n'y a aucune trace de pas dans le sens du retour, Watson en conclut que Holmes et Moriarty se sont battus et sont tombés tous les deux dans le gouffre. Watson retrouve la canne du détective ainsi que son étui à cigarette en argent. Moriarty lui a permis d'écrire ces quelques mots avant leur dernier combat. Il espère s'en sortir, mais il est prêt à mourir avec lui pour débarrasser le monde de l'abominable Moriarty. L'affaire est entendue, Holmes et Moriarty ont disparu dans le gouffre de Reichenbach. Lorsque le livre paraît, l'éditeur est submergé de lettres de protestation des lecteurs. Ils sont furieux. Mais qui est donc cet auteur qui doit sa fortune et sa notoriété au héros peu banal qu'il avait inventé 8 ans auparavant et qui est capable de le détruire sans remords? Qui est Conan Doyle? Conan Doyle n'est pas anglais, il est écossais. Il naît le 22 mai 1859 au 11 Piccadilly Place à Édimbourg dans une famille catholique. Il est le deuxième des 10 enfants du peintre Charles Altamont Doyle et de Mary Foley qui, elle, est irlandaise. Les études du jeune Conan se feront dans des établissements religieux, une école préparatoire dans le Lancashire, puis le collège de Stonyhurst. L'élève n'est pas enthousiasmé par son éducation catholique. En 1875, à 17 ans, il entreprend des études de médecine à l'université d'Édimbourg. Il se passionne déjà pour l'écriture, il publie des nouvelles dans le Chambers Edinburgh Journal, par exemple « Le mystère de la vallée Sassassa » en septembre 1879. Passionné de poésie, c'est aussi un grand sportif amateur de cricket et de football. Il obtient son diplôme de médecin en 1881 et ouvre un cabinet l'année suivante dans un faubourg de Portsmouth. Il épouse en 1885 Louisa Hawkins. 2 ans plus tard, il écrit « Une étude en rouge », le premier roman dans lequel apparaît Sherlock Holmes. C'est un immense succès, comme le signe des quatre en 1889. Sa réussite est telle qu'il abandonne la médecine pour s'installer à Londres en 1891 et y vivre de sa plume. En 1892, les aventures de Sherlock Holmes enthousiasment toujours autant le public. Mais l'année suivante, en 1893, il tue le détective dans « Les mémoires de Sherlock Holmes » comme je vous l'ai raconté au début de cet épisode. Qu'est-il arrivé à Conan Doyle? Pourquoi ne peut-il plus supporter son héros? Il a sans doute peur d'être enfermé dans un genre, ou peut-être livre-t-il trop de lui-même à travers ses deux protagonistes, le docteur Watson et le détective? Il est temps de se pencher sur leur cas. Le premier personnage qui entre en scène est le docteur Watson. C'est normal, c'est lui qui raconte l'histoire à la première personne. Il se présente comme un médecin militaire envoyé à la fin de ses études dans un régiment en garnison aux Indes. À peine débarqué à Bombay, il apprend que son unité est engagée dans la Seconde Guerre d'Afghanistan. Il la rejoint à Kandahar, participe au combat très violent. Lors d'un engagement, il est blessé à l'épaule. Il ne doit son salut qu'au courage de son ordonnance qu'il a jeté en travers d'un cheval et qui a pu le ramener derrière les lignes britanniques. La blessure est douloureuse, il est soigné à l'hôpital de Peshawar. Là, il est rattrapé par le fléau des colonies indiennes, la fièvre entérite. Il est hospitalisé 2 mois, se sent mourir, puis revient à la vie. Il est si faible et si amaigri qu'on le renvoie en Angleterre avec une pension pour subvenir à ses besoins et se rétablir. Il s'installe d'abord dans un hôtel du Strand, grande artère londonienne, mais s'aperçoit qu'il est trop cher pour le montant de sa pension. Rencontrant par hasard un infirmier avec lequel il avait travaillé, il lui demande s'il saurait comment se loger à bon marché à Londres. Celui-ci répond que c'est étrange car le matin même, il a rencontré un homme qui travaille au laboratoire de chimie de l'hôpital, et celui-ci craignait de ne pouvoir trouver avec qui partager un bel appartement trop cher pour lui tout seul. Il cherche un colocataire. « Je suis son homme », réplique Watson. La rencontre avec Sherlock Holmes, puisque c'est lui l'homme du laboratoire, a lieu l'après-midi au laboratoire de l'hôpital. L'infirmier lui présente Watson, auquel il dit « Vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois ». Watson est interloqué. Il va vite comprendre. Les dons d'observation de son futur colocataire sont exceptionnels. Holmes lui explique qu'il fume un tabac très fort dans sa pipe. Watson fume aussi. Holmes fait des expériences, il est entouré de produits chimiques. Cela ne dérange pas le médecin. Il lui arrive d'avoir le cafard et de rester plusieurs jours sans parler. Aucun inconvénient. À son tour, Watson avoue qu'il se lève à des heures impossibles, qu'il est très paresseux, qu'il n'aime pas le bruit car ses nerfs ont été très éprouvés. Le violon est-il un bruit insupportable pour lui? Non, si on en joue bien, alors cela ira, dit Sherlock Holmes. Le duo est constitué, il s'installe au 221B Baker Street, une adresse qui est encore aujourd'hui un lieu de curiosité, voire de pèlerinage pour les touristes londoniens. Au début, Watson s'interroge sur les activités de son colocataire. Il voit passer chez eux des individus étranges, un certain Lestrade, petit homme à l'œil noir avec une face de rat, puis une jeune fille élégante, une femme traînant la savate et toutes sortes de gens. Chaque fois qu'il reçoit, il prie son colocataire de ne pas le déranger. Un jour mémorable, Watson se lève plus tôt que d'habitude et prend pour la première fois son petit déjeuner avec Sherlock Holmes. Ce dernier va enfin lui expliquer son métier. Il n'est pas médecin, mais il est très calé en chimie, en anatomie, en géologie, distinguant au premier coup d'œil les différentes sortes de terrains. Une tache de boue sur des chaussures et un pantalon, Sherlock sait tout de suite d'où cela provient. Il est bon violoniste, il est adroit à la boxe et à l'escrime, mais surtout il a un sens aigu de l'observation. Cela lui permet, en un seul coup d'œil, de deviner les pensées les plus secrètes de son interlocuteur. En fait, il est détective, c'est comme cela qu'il gagne sa vie. Mais pas n'importe quel détective. Laissons-le nous l'expliquer.
Nous avons à Londres un tas de détectives relevant du gouvernement et des tas de détectives privés. Quand ils sont dans l'embarras, ils viennent me trouver. Je m'arrange pour les mettre sur la voie. Ils me font part de toutes leurs observations et, grâce à ma connaissance de l'histoire du crime, je suis en mesure de les tirer d'affaire. Tous les méfaits ont un air de famille. Et si vous connaissez, sur le bout des doigts, l'histoire de 1000 crimes, il serait bien étonnant que vous ne puissiez débrouiller le 1001e. À propos, Lestrade est un excellent inspecteur de Scotland Yard.
Sherlock Holmes révèle aussi à Watson comment, lors de leur première rencontre, il l'a aussi vite identifié comme un médecin militaire de retour d'Afghanistan. Il avait l'air d'un médecin et d'un militaire, il était l'un et l'autre. Son visage était très brun, ses poignets étaient blancs. Il revenait donc des tropiques. Il avait mauvaise mine, il relevait donc de maladies et de privations. Il avait le bras gauche raide, il avait donc été blessé. Le seul endroit des tropiques où un médecin de l'armée britannique puisse être alors blessé était l'Afghanistan. Élémentaire, mon cher Watson. Désormais, le détective et le médecin vont vivre en commun ces aventures criminelles que doit résoudre Sherlock Holmes. La première sera « Étude en rouge », l'histoire d'un homme assassiné dans une maison vide avec pour seul indice le mot « Rache », écrit en lettres de sang sur un mur. En allemand, « Rache » signifie « Vengeance. Sherlock Holmes l'appelle « étude en rouge » parce que le fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie. Il reste encore à Watson à découvrir un autre aspect, plus dérangeant, de son colocataire. Depuis plusieurs mois, il voit périodiquement, parfois trois fois par jour, Sherlock Holmes saisir une bouteille sur le coin de la cheminée, sortir une seringue hypodermique de son étui, relever la manche gauche de sa chemise, s'injecter le liquide, puis se caler dans un fauteuil avec un soupir de satisfaction. Watson finit par lui demander « Aujourd'hui, morphine ou cocaïne ?»« Cocaïne, » répond-il, « une solution à 7%. » Il lui propose d'essayer. Watson refuse énergiquement. Un médecin ne peut pas s'injecter de la drogue et c'est très mauvais pour la santé. Sherlock Holmes lui explique alors que, même si elle a une influence néfaste sur son corps, elle stimule la clarification de son esprit. Sherlock Holmes n'est donc pas parfait. Non seulement il fume la pipe à longueur de journée, mais il est aussi adepte de drogues dures. C'est étonnant car cet aspect du personnage arrive dès le premier livre racontant ses aventures. Apparemment, les lecteurs apprécient tant le personnage qu'ils ne lui en tiennent pas rigueur. Son autre passion, le violon, est plus gratifiante. Il adore la musique, à Watson, il explique ce que prétend Darwin.
Chez les hommes, la faculté de produire et d'apprécier la musique a précédé de beaucoup la parole. C'est peut-être pour ça que l'influence qu'elle exerce sur nous est si profonde. Les premiers siècles de la préhistoire ont laissé dans nos âmes de vagues souvenirs.
Si Sherlock Holmes peut aujourd'hui être identifié au premier coup d'œil, c'est presque plus grâce aux couvertures des livres qu'au texte de Conan Doyle. Une casquette à visière nouée sur le dessus de la tête, une pipe vissée à la bouche, un MacFarlane, ce manteau de voyage écossais sans manches, dont la cape protège les épaules et parfois, bien sûr, une loupe pour rechercher les indices. Décidément, difficile à croire que Conan Doyle ait laissé mourir un héros si charismatique et puisse priver le lecteur de son duo avec Watson et de leurs aventures si palpitantes. Brusquement, en 1898, Conan Doyle va renouer avec la médecine, mais cette fois au service des armées. Il fait la campagne du Soudan, puis la guerre des Boers en Afrique australe de 1899 à 1902. De retour à Londres, il publie ce qui sera l'un de ses plus grands succès, Le Chien des Baskerville. Watson y raconte une nouvelle et passionnante enquête de Sherlock Holmes. Le détective existe donc toujours. Conan Doyle se verra obligé en 1905, dans un recueil de nouvelles intitulé « Le retour de Sherlock Holmes », de nous expliquer qu'il n'était pas mort dans les chutes de Reichenbach. Dans le premier récit, la maison vide, Sherlock Holmes arrive chez Watson stupéfait. Il lui explique que lors de son combat avec Moriarty, ses connaissances en lutte japonaise lui avaient permis d'envoyer son adversaire au fond du gouffre. Il avait quitté le lieu du drame discrètement, sans laisser de traces, pour mieux traquer les comparses de Moriarty qui avaient échappé à la justice. Pendant sa clandestinité, c'est Mycroft, son frère, qui avait subvenu à ses besoins. Il refait surface au moment où l'assassinat de Sir Ronald Adair met Londres en émoi. Il va, bien entendu, résoudre l'énigme en compagnie du docteur Watson. Après cela, Conan Doyle invente un nouveau personnage, le professeur Challenger, l'anti-Sherlock Holmes. Un savant colérique, même parfois grossier. Il va lui consacrer 5 romans. Le plus connu est « Le monde perdu », publié en 1912. Une redécouverte d'animaux préhistoriques au centre de la Terre qui enchantera à nouveau ses lecteurs. Après avoir participé à la guerre de 14-18, il se tourne vers le spiritisme et donne plusieurs conférences sur ce sujet qui le passionne. Conan Doyle s'éteint en 1930 dans sa propriété de Crowborough dans le Sussex. Il avait été anobli et fait chevalier de l'Empire britannique par le roi Édouard VII en 1902 pour récompenser sa carrière littéraire. Si cette plongée dans l'univers de Conan Doyle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vasseau et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.